carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'art est un moyen de dire l'indicible, de représenter ce qui ne peut être vu. Ce lien entre l'art et le sacré est apparent dans toutes les civilisations comme un moyen de communication avec ce qui dépasse l'humain et sa finitude. L'artiste peut se mettre au service du sacré comme ce fut le cas pendant des siècles en Occident. Mais l'art porte en lui un caractère universel et peut entraîner les hommes dans un autre rapport à leur temps. Où se trouve la part de subjectivité dans la création d'un artiste ? Laissons la parole au sculpteur Claude Abeille, membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2006, aimant travailler et modeler ses sculptures à partir du plâtre depuis près de 50 ans. Son art discret et profond, à travers ses bronzes, explore comme thème essentiel le vêtement, les plis, comme métaphore de l'enveloppe corporelle. Robert Couturier, mort en 2008, disciple de Mayol, lui avait affirmé alors qu'il cherchait sa voie « tu es sculpteur ». Il fut lauréat du prix Bourdelle en 1963. L'art vit de métamorphoses successives, même si la notion d'art sacré paraît galvaudée, les artistes contemporains, croyants ou non, interprètent, créent des formes, mettent en scène une survivance du sacré au cœur d'une société de consommation éloignée des questions philosophiques ou religieuses. Avouées ou inconscientes, ces questions ressurgissent parfois sans rapport avec une religion précise. Claude Abeille est croyant. Il a créé un grand bas-relief pour une église récemment construite à la mairie des Lilas, en banlieue parisienne, l'église du Rosaire. Retrouvons Claude Abeille devant cette œuvre, un immense bas-relief de 5 mètres de haut, représentant un Christ en gloire, dans un décor tout à fait moderne et dépouillé. Qu'a-t-il fait d'un mur plat, blanc, immaculé, pourrait-on dire, de 10 mètres sur 10, en lieu du cœur habituel qu'on trouve dans les églises ? Retrouvons Claude Abeille. Claude Abeille, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment est né ce projet d'abord ?
Ben écoutez, on m'a demandé d'étudier juste un Christ en gloire parce que les architectes de cette église avaient conçu le fond de l'église comme étant un mur, alors que assez souvent, c'est le cœur, on va dire, le cœur. Il y a des fenêtres dans l'art gothique ou bien le cœur est souvent rond sur le plan semi-circulaire, un cul de four par exemple. Mais là, c'est un très grand mur de 10 mètres sur 10 mètres. Et l'architecte avait appelé ça le mur de gloire. Donc l'idée de faire un Christ en gloire est venue de ça, et c'était un mur. Donc pour moi, c'est un problème de mettre une sculpture sur un mur, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors le Christ en gloire, c'est un Christ qui est après sa mort, donc il monte en quelque sorte au ciel, c'est-à-dire qu'il passe de notre monde à l'au-delà. Alors, donc l'au-delà étant quand même un mythe, une énigme que l'on ne connaît pas, on ne connaît pas la solution. Alors c'est le paradis terrestre ou c'est un paradis ou c'est on ne sait pas très bien, mais c'est ce qui est après la mort ou même avant la mort. Donc c'est un mur et j'ai pensé symboliser cette chose, cette idée, par le mur et quelqu'un, à savoir le Christ, qui traverse le mur. Mais on n'en voit plus qu'une seule partie parce qu'il est en train justement de franchir cette limite qui nous est imposée à nous et il nous invite à réfléchir à la question et à le suivre dans cette situation-là. Donc il est en gloire, c'est-à-dire qu'il a vaincu la mort et il donne un sens qui est encore, il faut dire, un peu énigmatique, mais on peut franchir cette barrière. Donc c'est ça qui a déterminé un peu ma façon de voir le bas-relief qui est fragmenté et qui, par cette fragmentation, suppose que déjà une partie est dans le mur alors qu'on voit une autre partie.
Donc là, c'est tout ce passage que vous avez...
C'est un passage, voilà.
Et c'est un passage, sur lequel vous avez travaillé.
Voilà, c'est un passage glorieux.
Il faut peut-être dire pour nos auditeurs que le mur en question est immense.
Oui, 10 mètres sur 10 mètres. Oui.
10 mètres sur 10 mètres, qu'il n'a pas effectivement d'éclairage latéral habituel aux églises avec un cœur en cul de four, là, justement.
Oui, c'est ça.
Puisqu'on est dans une construction complètement moderne, puisque l'église a été construite pour maintenant, enfin, elle vient d'être inaugurée en même temps que votre œuvre dans l'église.
Oui, oui, oui.
Est-ce que là, vous avez utilisé donc le mur en question pour vous lancer dans ce travail? Est-ce que l'architecture a été aussi une impulsion là de votre réflexion?
Oui, parce que il n'y a pas d'autres ornements. Enfin, au fond, il y a des vitraux. Hein, il y a des vitraux et il y a une croix qui se voit aussi devant le mur. Mais c'est une croix extrêmement simple, donc il n'y a pas d'autre ornement, donc il fallait que ce soit suffisamment grand pour qu'on le voit.
Donc à peu près, lui,
il fait 5 mètres de haut.
5 mètres de haut.
Oui, il a deux éclairages, un éclairage par le bas et un éclairage par le haut, qui au fond symbolise assez le ciel et la terre, au fond. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a inspiré, Claude Abeille, pour ce Christ en gloire? Une œuvre en particulier, une école, un courant?
Oui et non. C'est-à-dire, les sculpteurs, en tout cas moi, mais la plupart des sculpteurs, travaillent avec la lumière. Parce que on voit les volumes et les accents d'une sculpture par la lumière qui coule le long de la sculpture. Et évidemment, il y a la lumière et puis il y a les ombres. Donc c'est ça qui fait qu'on voit une sculpture et qui aide à exprimer ce qu'on veut. Or, il se trouve que l'art gothique, notamment grâce à l'abbé Suger, avait mis ça tout à fait, avait accordé une grande importance à la lumière. Enfin, on sait que tous les vitraux viennent de là, de cette nécessité de creuser les murs pour que la lumière apparaisse. Et c'est aussi un symbolisme qui est venu de toute la religion, même avant le christianisme, mais aussi des néoplatoniciens. Donc, c'est ce qui compte, c'est la lumière. En tout cas, la lumière est une sorte de métaphore de la divinité. Pour moi, c'était important que ma technique à moi, qui est celle des sculpteurs, et qui consiste à utiliser la lumière et les ombres, au fond, pouvait exprimer cette idée-là de la lumière venant d'en haut et la lumière venant d'en bas. Donc, c'est pourquoi le bas-relief est fait en tenant compte, tous les plans et les accents du bas-relief sont faits pour tenir compte de cette lumière-là. Voilà.
Alors, il surgit du mur, là, comme on l'expliquait un petit peu tout à l'heure. Quel est le matériau? Parce que c'est donc un grand mur, on va dire, blanc, pour faire court, avec ce bas-relief qui ressort lui-même dans les blancs. Alors, comment vous avez procédé?
Alors, sur le plan, je dirais, le mur est blanc, et moi, je voulais que ce soit le mur qui semble, en quelque sorte, s'animer. Donc il y a le mur qui est plat et puis brusquement il bouge avec
cette apparition.
Voilà. Bon, alors techniquement parlant, le bas-relief est fait en résine blanche, donc, et la résine a été étudiée de manière à avoir exactement le ton du mur pour obtenir cet effet du mur qui s'anime grâce uniquement à la lumière. Donc il n'y a pas de contraste de couleur puisque c'est la même couleur. C'est comme si c'était, par exemple, un très grand mur en pierre qui est plat, mais qui, à un certain endroit, est sculpté. Voilà.
L'endroit où vous l'avez placé dans ce grand carré blanc, au niveau de la composition, qu'est-ce que vous avez choisi de le mettre quelque part et de donner un mouvement un peu ascensionnel là.
Alors ça, c'est fait, évidemment, avec les architectes et le prêtre, le curé, qui ont eu leurs idées. Au début, moi, j'avais plutôt pensé mettre ce Christ en gloire tout à fait vertical. Je pensais un peu à, comment dire, il y a une sculpture, ou plutôt une peinture, je trouve extraordinaire. C'est celle qui se trouve à Torcello, qui représente une vierge, et qui est vierge à l'enfant. Ou une vierge, non, une vierge tout court, et qui est au fond de la crypte.
À Torcello, à Venise?
Oui, c'est ça.
Et
qui est une chose assez extraordinaire, je dois dire. Donc moi, je pensais m'inspirer de cette verticalité-là. Et puis, finalement, les architectes, eux, voyaient ça de manière plus dynamique. Et ils pensaient qu'il fallait plutôt le mettre pas au centre du mur, le décaler légèrement.
Ouais.
Mais il se trouve que la tête du Christ se trouve dans l'axe de l'autel. Donc la tête du Christ est dans l'axe de l'autel, mais le Christ lui-même est légèrement oblique. Donc il a un mouvement. Il a un mouvement et de l'autre côté, il y a la croix. Donc il y a une sorte de... Le mur est composé avec deux éléments. Il y a la croix qui est à gauche et le bas-relief qui est à droite.
avec un décalage entre le bas-relief et la croix, puisque la croix repose sur l'autel. Donc on a là des champs différents, disons, entre le bas-relief et la croix.
C'est ça.
Des symboliques différentes et des histoires différentes aussi.
La croix, elle est sur terre, si j'ose dire.
Voilà, et puis, elle est d'une simplicité
elle est
biblique.
Belle. Elle est très belle,
Voilà. Claude Abeille, ce Christ en gloire, quand on connaît un petit peu vos œuvres, on est habitué, on connaît vos œuvres qui concernent le vestiaire, ces vêtements, ces plis, qui ont toute une symbolique pour vous sur l'enveloppe, le corps absent, vous nous en parlerez peut-être. Mais là, sur ce Christ en gloire, justement, on ne sait pas si c'est un voile, un vêtement, son corps, une enveloppe, son enveloppe charnelle. On a quand même des fragments et un peu de ces plis qui vous caractérisent tout de même.
Oui, alors c'est un vêtement qui est un peu vague, mais plutôt sont des... Bon, je me sers des plis comme une sorte de... Il y a des vagues, si vous voulez. Il y a des vagues de vêtements qui... Alors, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de gauche qui, selon moi, monte et arrive à la tête du Christ. Mmh. Et à droite, venant de sa main gauche à lui, il y a plutôt un mouvement de descente.
Exactement, avec des éléments qui ont l'air de chuter.
Voilà, c'est ça.
C'est comme une bille, un duo, mais à sens contraire.
Voilà. Donc il y a les deux, il y a le mouvement ascendant et le mouvement descendant, dont parle d'ailleurs souvent les néoplatoniciens eux-mêmes. Je me sers de la métaphore du vêtement pour pouvoir, dire, mais ces éléments qui descendent sont en quelque sorte des plis de son manteau qui sont déjà à l'intérieur du mur. Voilà.
Et qui disparaissent, et puis on pourrait dire vers le bas de la composition.
Alors le bas, c'est un rocher, c'est un peu une masse de rocher, c'est la terre en quelque sorte.
Alors c'est à peine figuré, mais on voit bien à l'œil que ça n'a pas le même sens que ce qui est au-dessus, puisque c'est d'abord plutôt dans l'horizontale, par rapport à ce Christ vertical qui s'élève. On voit bien que c'est autre chose. Sur les mains et le visage du Christ, qu'est-ce qui vous a inspiré ou qu'est-ce que vous avez choisi de faire?
Alors, le visage et les mains sont des signes, tout simplement. Je n'ai pas cherché à exprimer tellement quelque chose avec les mains et la tête, qui est assez, je dirais, une tête normale ou même conventionnelle. Il ressemble à tout le monde. Et les mains sont les mains de tout le monde, sauf qu'elles sont blessées par la croix. Enfin, il y a ces blessures visibles aux pieds aussi.
Pieds qu'on ne voit pas pratiquement.
On en voit un. Mais je n'ai pas insisté là-dessus.
Il y a beaucoup de suggestions, dis ça pour l'auditeur.
Oui, je n'ai pas mis l'accent là-dessus, mais ça se trouve là, effectivement. Même le torse, il y a une blessure au torse, parce que c'est ce qui donne son sens à la chose, et le Christ a aussi une auréole.
Justement, on voit bien ses incises très nettement, et on voit également la main, donc la main droite du Christ, celle qui s'élève, qui montre le chemin, je suppose.
Hein,
très détachée par rapport au mur, elle est très en avant, elle est vers nous. Ça, c'est des choses que vous avez pensées, que vous avez...
Oui, parce que les deux mains n'ont pas exactement le même sens.
Oui.
Sa main droite à lui, elle est en effet, comme vous le dites, détachée un peu, elle montre un peu un chemin. Et celle de gauche, elle distribue, si on veut parler comme un prêtre, distribue des grâces, en quelque sorte, qui descendent. Voilà.
Claude Abeille, vous êtes croyant ?
Oui, mais c'est une question un peu difficile. Il est difficile de répondre à cette question, parce que je suis, comme tout le monde, en présence de cette énigme, du doute, le doute qui change, je vis avec un doute et avec aussi une foi. Je crois que c'est un peu tout le monde comme ça. De toute façon, je crois que le monde ne peut pas s'expliquer vraiment si le monde est éternel et n'a pas été créé. Parce que si le monde est éternel, alors plus rien n'a d'importance. Au fond, puisque ça s'est déjà passé des milliards de fois, l'histoire n'a plus aucun sens. Tandis que si le monde a été créé, à ce moment-là, il y a quand même peut-être un plan que nous ne connaissons pas, que nous pouvons seulement imaginer. Voilà. Donc il y a un peu un espoir. Tandis qu'autrement, le monde est sans aucun espoir.
Vous avez la foi catholique ?
Je ne suis pas très pratiquant, j'ai une foi sans trop de pratique. Je crois que toutes les religions chrétiennes, au fond, sont avec des variantes. Ce sont des variantes de la même chose.
Quand vous avez réalisé cette œuvre, alors vous l'avez réalisée avec un sens particulier pour vous ?
Alors,
parce que même si c'est une œuvre de commande, c'est...
Non, mais c'est avant tout pour moi une sculpture.
Oui, un bas-relief que vous qualifiez de sculpture.
Oui, c'est une sculpture, et avant tout c'est une sculpture. C'est-à-dire que je suis sculpteur, donc c'est mon affaire, c'est la sculpture. Maintenant, est-ce que le sens que ma sculpture a, je n'en suis pas maître. Je peux m'efforcer, dans une certaine mesure, de lui donner telle ou telle caractéristique ou telle signification. Mais je crois que la sculpture, elle est toute seule aussi. C'est-à-dire, on peut l'interpréter de plusieurs façons. C'est ce qui explique que l'art égyptien, par exemple, nous reste proche, en tout cas pour moi, même si sa signification réelle, ou enfin, signification pour les Égyptiens, a disparu, la sculpture, elle, porte, sinon des réponses, en tout cas, elle porte en tout cas des questions. Voilà.
Quelle est votre définition de l'art, ou votre vision de l'art ?
Ah, ça, je ne sais pas. Il n'y a pas de définition, non. C'est une énigme aussi, ça. C'est quelque chose qui reste, qui résiste au temps. Là, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je ne sais pas.
Est-ce que ça rejoint ce qu'on appelle l'art sacré ou pas ? Qu'est-ce que c'est l'art sacré en 2011 ? Faire un Christ en gloire en 2011, qu'est-ce que c'est pour un sculpteur ?
Tout art est sacré. Enfin, à partir du moment où la sculpture ou la peinture est plus que ce qu'elle est, c'est plus qu'un morceau de bronze ou un morceau de plâtre ou plus qu'une toile peinte. À partir du moment où c'est plus que ça, où il y a un plus, on approche de quelque chose qu'on peut appeler sacré. Voilà. Je sais qu'il y a des théories disant que telle sculpture, elle est ce qu'elle est et c'est tout. Mais si elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire un morceau de bois ou de pierre, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ça peut m'intéresser si je peux m'en servir. Si c'est un fer à repasser, c'est utile, naturellement. Mais ça n'est pas de l'art, a priori. C'est de l'art si le sens qu'il a dépasse la fonction des fers à repasser.
Dans votre œuvre, dans vos différentes sculptures, il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'allusion. On a une partie du chemin en tant que spectateur à faire, qui n'est pas très long, hein, mais qui est une forme ou de respect, je ne sais pas comment dire, ou de dialogue avec ceux pour qui vous faites les sculptures, c'est-à-dire nous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je dis?
Oui, absolument. Mais pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne sais pas toujours... quel est le sens de ce que je fais. Et d'une certaine façon, les sculptures que je fais passent par différents stades et il y a un moment où je prends conscience de ce que j'ai voulu faire. Mais au départ, je ne le sais pas. Enfin, quelquefois, il y a quand même un but précis au départ, mais c'est assez rare. En général, c'est plutôt j'ai envie d'utiliser mes mains, mes doigts, de la matière pour faire quelque chose et ce n'est qu'au bout d'un moment... que je vois de quoi il s'agit. Et par conséquent, ça ne m'étonne pas que le spectateur, lui aussi, qui voit la même chose, se pose des questions et n'entre pas tout de suite dans ce que j'ai voulu faire, parce que c'est mon cas aussi. Et il peut arriver qu'une sculpture que j'ai abandonnée, parce que je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire, je la revois plusieurs années après, et que brusquement, je me dis « Ah, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est ça. » Et souvent, il y a très peu de choses à changer pour affirmer cette nouvelle signification qu'au départ, je n'avais pas vue.
Vous avez un exemple d'une de vos œuvres, un nom d'œuvre
Non,
ça arrive
non.
De temps en temps quand vous regardez vos propres sculptures, ça s'impose à vous.
Oui.
Vous, le travail accompli, là, l'œuvre finie, vous êtes satisfait? Vous avez eu déjà des échos, des gens qui fréquentent l'église?
Oui, parce que, évidemment, cette sculpture répond à un projet, répond à une demande. Et oui, effectivement, quand je l'ai faite avec donc, le curé de la paroisse et les architectes, il y a eu aussi des réunions avec des fidèles de l'église, enfin, ceux qui étaient intéressés par la chose, et il y a eu des discussions... C'est justement, certains ne voyaient pas où ça allait arriver. Et pour finir, j'ai tenu compte de certaines remarques, parce que les gens ont tout à fait le droit et le devoir de dire ce qu'ils pensent. Donc, j'ai un peu tenu compte, mais...
De quoi, par exemple?
Certaines dispositions des mains, certaines choses comme ça.
Vous avez montré des esquisses,
oui,
en fait.
Oui, il y avait des esquisses, oui. Oui, et puis les gens avaient raison, et puis les architectes avaient raison, je crois aussi, de penser qu'il valait mieux une certaine oblique qu'une verticale. Bon, c'est un travail d'équipe quand même, même si je suis responsable, mais c'est quand même un travail d'équipe, il n'y a pas de doute.
Et vous avez présenté des esquisses, cette œuvre, elle est d'abord née sur le papier?
Non, j'ai plutôt fait des esquisses en plâtre, en petit format.
Oui.
Et ensuite, j'ai fait au format, c'était le tiers de... Oui, ça faisait donc 1m50 à peu près. Et j'ai fait des photos de ça que j'ai montrées aux gens. Il y a eu des discussions sur ces photos-là. Et ensuite, et c'est très grand, enfin, ça fait 5 mètres de haut. Dans mon atelier, ça, je ne pouvais pas le faire.
Comment vous avez fait alors?
Ça, j'ai fait en 3 morceaux.
Ah, vous l'avez fait en 3 morceaux et vous ne l'avez vu réuni qu'ici?
Alors non, on l'a réuni chez celui qui a réalisé les résines. C'est-à-dire, c'est Aligon, enfin, c'est une dynastie de mouleurs et je crois que le créateur de cette dynastie a travaillé pour Rodin. Je pense que c'est lui qui a dû inventer une machine à agrandir.
Ah!
Enfin, c'est, oui, ce sont des gens tout à fait.
Ils sont installés où? Rappelez-nous.
Ah, ils sont près de Brie-Comte-Robert. Ils sont à Mandres-les-Roses, près de Brie-Comte-Robert. Donc là, ils ont un grand atelier, ils ont fait le montage de la chose et c'est à ce moment-là que j'ai pu. Faire les raccords, voilà.
Donc elle a été montée, après ici sur place.
Alors ensuite c'était toujours en petits morceaux, et ça a été remonté ici, d'ailleurs de façon assez rapide, en 2 jours. Ce sont de vrais professionnels, alors donc tout était prêt, et c'est agrafé sur les murs.
Vous êtes heureux du résultat final, du rendu, comme on dit?
Vous savez, on n'est jamais...
C'est des mots techniques un peu...
Oui, on n'est jamais...
Très loin de l'émotion qu'on peut...
Non, je suis très content que ça a été fait. De la réalisation est tout à fait ce que je voulais. Bon, maintenant, quant à l'œuvre, vous savez, quand je la revois, je suis à la fois content et puis je me dis, tiens, est-ce que j'aurais dû changer ceci ou cela, ou ça? Bref, ça continue à fonctionner dans ma tête. Mais enfin, non, je dois dire que c'est une chose qui a reçu un très bon accueil, et notamment, les fidèles sont venus quelquefois me dire, ah ben... Voilà, on ne savait pas trop quoi en penser, mais maintenant on est content que ce soit là. Donc moi aussi, bien sûr.
Est-ce que vous diriez que les plis du vêtement du Christ, là, sont un peu les bandes de votre cathédrale intérieure?
Oui, pourquoi pas, oui. Vous savez, les plis dans la sculpture, c'est ce qui fait bouger les plans. La sculpture est faite avec des plans essentiellement, donc le mur plat, c'est un grand plan. Et pour le faire bouger ou pour raconter une histoire, il faut donc utiliser la lumière, comme je l'ai dit. Mais les plis, c'est ce qui donne de la vie. Et quand je suis dans le métro, je regarde pas tellement la tête des gens que les plis de leurs vêtements. Il y a des plis un peu fatigués, il y a des plis joyeux, il y a des plis tristes, il y a des plis... Donc le métro, c'est extraordinaire.
T'as un laboratoire.
Bon, je regarde la tête des gens aussi, bien sûr, mais c'est surtout le vêtement. Parce que c'est ce qui nous exprime sans que nous le voulions tellement. Enfin, si, la mode est quand même... On veut être à la mode. Quoi.
Alors justement, les plis de ce Christ en gloire-là, ils sont beaucoup plus espacés que ceux de vos habituelles sculptures, je trouve. Un peu plus...
Oui, parce que c'est un peu...
Ça ne pouvait pas être nos vêtements de tous les jours. Hein,
non, mais... C'est un peu une désincarnation. Que le Christ, c'est une incarnation... Et là, il est en train, je dirais, de passer dans un autre côté. Quoi. Donc, oui, il y a un peu un découpage, si vous voulez. Un découpage qui me permet d'exprimer quelque chose de plus qu'un simple drapé.
Voilà, qui exprime peut-être votre doute.
Ça peut aussi, oui.
Votre foi, les deux.
Oui, les deux, voilà, c'est vrai.
Vous voulez ajouter quelque chose, Claude Abeille?
Écoutez, non, je vous remercie de me forcer comme ça à parler. Parce qu'autrement, je suis plutôt ce qu'on appelle un taiseux. C'est-à-dire, je ne parle pas beaucoup, mais là, brusquement, vous avez la gentillesse de m'interroger. Donc, je me sens obligé de vous raconter toutes mes histoires. Voilà.
Et celle de cette œuvre. En tout cas, merci beaucoup, Claude Abeille.
Je vous en prie.